Edith Wharton, Le bilan. Chapitre 5. 2 années environ s'étaient écoulées. Le soleil de printemps, sous la fraîcheur duquel Lizzie West avait tant de fois gravi dans la poussière les hauteurs de Saint-Cloud, de nouveau luisait au-dessus de la jeune fille. Mais la scène et le décor avaient changé. C'était aux Champs-Élysées chez Laurent. Les rayons filtraient à travers la tête des marronniers sur le gravier des allées. Miss West, assise à une table dans cette enceinte élégante, arborait un chapeau mieux à même de soutenir l'examen que ceux dont s'abritait jadis l'institutrice de Juliette Deering. La toilette était en rapport avec la coiffure, et l'une comme l'autre marquait le rang d'une personne qui, entre 1000 loisirs, a celui de déjeuner chez Laurent un jour de vernissage. Ses compagnons des deux sexes confirmaient l'impression par leur mise et leur manière. C'étaient de ces riches Américains dont tout l'effort est de n'omettre aucun rite de la grande vie désœuvrée de Paris. Andorra Messie elle-même, assise en face de Miss West, comme pour l'assister dans son rôle de maîtresse de maison, reflétait discrètement en gris et mauve cette note de fête. Cet air de fête semblait frapper particulièrement un homme attablé seul à l'angle le plus reculé du jardin et dont les yeux ne quittaient pas le groupe. Mais le fait de déjeuner chez Laurent en compagnie élégante n'avait pour Miss West rien d'insolite, sinon la petite excitation que la présence de M. Jackson Benn commençait à communiquer à ses réunions. « C'est extraordinaire comme vous vous y êtes habitué, » observait Andorra Messie dans les premiers jours de cette vie nouvelle. En effet, Lizzie West s'était un matin réveillée riche par l'héritage d'un vieux cousin avare dont le testament avait été, quand elle était tout enfant, un sujet de plaisanterie sans fin et de conjectures dans son imprévoyante famille. Le vieil Hezron Mears n'avait jamais donné signe de vie à ses parents pauvres. Peut-être s'était-il à peine rendu compte qu'il couchait les Wes sur son testament. Mais, selon la coutume américaine, il n'avait pas manqué de partager scrupuleusement entre sa parenté ses millions accumulés. C'est donc par un simple accident généalogique que Lizzie, tombant juste dans le cercle d'or, se trouva posséder une fortune suffisante pour la délivrer des interminables perspectives de la pension Clopin. Au début, le soulagement lui avait paru immense. Toutefois, elle s'aperçut bientôt que cet événement avait détruit son premier univers sans lui en refaire un autre. Sur les ruines de son ancienne existence s'épanouissait la fleur unique qui avait égayé sa route. Mais, hormis le sentiment du bien-être présent et la sécurité du lendemain, son existence reconstituée ne faisait fleurir aucune joie comparable. Elle avait fondé de grands espoirs sur ce qu'elle pourrait se reposer, voyager, regarder autour d'elle, avant tout être gentille, avec toutes les délicatesses féminines, pour ses compagnes moins avantagées. Mais on aurait dit que plus elle élargissait le champ de ses rêves, plus elle prenait conscience du vide de sa propre vie. Ce n'est qu'en acquérant des loisirs qu'elle se rendit pleinement compte de ce qui lui manquait. Pour combler le vide de ses journées, elle s'attachait à multiplier et diversifier ses sensations. Elle était comme un propriétaire qui, ayant à installer sa maison, entasserait dans les pièces des meubles de rencontre pris à condition. C'est en vue d'une expérience de ce genre qu'elle avait arrêté son attention sur M. Jackson Benn, et les efforts d'imagination par lesquels Lizzie cherchait à le trouver de son goût était secondée par la tendre complicité d'Andorra et le sourire approbateur de ses cousins. Lydie se gardait de décourager ses tentatives. Elle supportait sereinement les allusions d'Andorra à la passion de Monsieur Ben et les détails sur la situation de fortune du jeune homme que Mrs. Mears ne manquait pas de glisser à l'occasion. Tant mieux s'il parvenait à draper ses épaules carrées dans les voiles embrumées du sentiment. Lizzie observait et écoutait, sans trop croire au miracle, et l'espérant peut-être un peu. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Les Français ont une façon de vous dévisager. Est-ce que cela ne vous agace pas, Lizzie? S'exclama tout à coup Mrs. Mears en ramenant son boa de plume d'un geste pudique. Mrs. Mears était encore à l'âge où ses compatriotes goûtent à plein le danger de s'exposer au regard des effrontés Gaulois. Lizzie était à ce moment plongée dans la contemplation de Monsieur Ben. Elle examinait ses joues rondes et poupines, ses mâchoires carrées et bleuâtres posées sur un col droit. Elle leva les yeux. « Est-ce qu'on me regarde ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Surtout ne vous retournez pas. Là-bas, juste entre les rhododendrons, le grand blond, qui est seul à cette table. Réellement, Harvey, vous devriez parler au maître d'hôtel. Mais dans un endroit pareil, on ne fera, je suppose, que de se moquer de vous, » conclut avec un frisson Mrs. Mears. Son mari, comme sûr d'avance d'un tel résultat, continua tranquillement à disséquer son aile de poulet. Mais Monsieur Ben sentit qu'il devait peut-être à la situation de se montrer plus pointilleux. Il tourna sévèrement la tête dans la direction indiquée par le regard de Mrs. Mears. « Qui? Cet individu qui est seul là-bas? Mais ce n'est pas un Français. C'est un Américain, » énonça-t-il avec une visible détente des muscles. « Oh !» murmura Mrs. Mears assez désappointée. Et Monsieur Ben poursuivit négligemment. Il a fait la traversée avec moi. C'est une espèce d'artiste, un nommé Deering. C'est moi qu'il regarde, je parie. Il se demande si je vais le reconnaître. Tiens, comment allez-vous? Et vous? Mais oui, certainement, avec plaisir. Mes amis, Mrs. Harvey Mears, Mr. Mears, mes amis, Miss Macy et Miss West. J'ai le plaisir de connaître Miss West, dit en souriant Vincent Deering. Chapitre 6. Malgré ce sourire, Lizzie avait vu au premier regard combien il était changé. L'impression s'aviva à en devenir douloureuse lorsque, quelques jours plus tard, en réponse à un billet qu'elle reçut de lui, elle accepta de le recevoir. Dire que ce papier, la première réponse à ses lettres, arrivait au bout de 3 ans, 3 longues années. Et sous quelle forme? Quelques brèves lignes banales, où perçait toutefois le malaise de conscience au soin avec lequel Deering évitait d'employer le langage d'autrefois. Tout en lisant, son esprit revenait aux lettres rêvées, aux réponses incomparables qu'elle avait composées sous son nom. Il n'y avait rien d'incomparable dans les phrases conventionnelles qu'elle avait sous les yeux. Mais ses nerfs assoupis se mirent à vibrer de nouveau au contact de ce papier qu'il avait touché, et elle jeta le billet au feu avant d'oser écrire la réponse. Maintenant que Deering se trouvait de nouveau en personne devant elle, il redevenait le seul point vivant de sa vie consciente. Une fois de plus, son âme tourmentée défaillait et se fondait mystérieusement dans l'être si connu et en même temps si inconnu, qui se tenait de l'autre côté de la cheminée. Elle était encore Lizzie West, il était encore Vincent Deering. Mais entre eux roulait le Styx, et elle n'apercevait son visage qu'à travers le brouillard du fleuve. Elle lisait à regard furtif sur son visage, plus encore qu'elle n'apprenait par ses paroles, l'histoire des chutes et des rancœurs qui avait peu à peu ravagé sa noble beauté. Il lui était impossible, plus tard, de retrouver dans sa mémoire le détail précis de ce qu'il avait raconté. La seule chose dont elle eut un souvenir net était l'effort douloureux que ce récit lui avait coûté à faire. Confusément, toutefois, elle comprenait qu'il avait dû trouver en débarquant en Amérique le petit avoir de sa femme notablement diminué. Que, tandis qu'il s'attardait là-bas à réaliser le peu qui restait, il avait trouvé le moyen de vendre une toile ou deux et avait même un instant connu la vogue, recevant des commandes et louant un atelier. Mais sans qu'on pût s'expliquer pourquoi, la veine avait tari. Ses tableaux lui étaient restés sur les bras. La maladie était venue avec son lamentable cortège de dettes et avait bientôt dispersé ses maigres ressources. Puis une période d'éclipse pendant laquelle elle entrevoyait qu'il avait dû faire flèche de tout bois, accepter un emploi chez un entrepreneur de décoration, dessiner des papiers peints, illustrer des articles de magazine, et même servir de racoleur pour un nouveau restaurant. Ces faits sans suite étaient reliés par un fil ténu d'allusions personnelles. Ami compatissant, sa jalousie devinait qu'il s'agissait de femme, ennemi sourdement acharné. Mais, fidèle à ses habitudes de correction, il évitait avec soin de citer aucun nom et la laissait tâtonner à l'aveugle et avec effroi dans une foule étrange et pressée, où il ne semblait pas y avoir de place pour un petit être frêle et farouche comme était Lizzie. En écoutant des rings, sa propre angoisse s'effaçait devant le sentiment intolérable de cette misère. Rien de ce qu'il avait dit n'expliquait ou n'excusait sa conduite vis-à-vis d'elle. Mais il avait souffert, il avait été seul, humilié. Et dans un brusque élan d'un instinct maternel, elle sentit que rien ne peut justifier un ordre de choses qui rend possible de telles abominations. Elle n'aurait pu dire pourquoi, elle savait seulement que cela faisait trop de mal de le voir souffrir. Peu à peu, elle se rendit compte que, si elle faisait ainsi abstraction de son grief personnel, cela venait de ce qu'elle avait sans retour possible réglé son avenir. Elle était heureuse d'avoir décidé, car elle sentait maintenant qu'elle l'avait décidé, qu'elle épouserait Jackson Ben. Au moins, ce parti une fois pris, elle avait le détachement qu'il fallait pour examiner le cas de Vincent Deering. Sa sécurité personnelle lui assurait l'impartialité requise et lui permettait de s'attarder aussi longuement qu'il lui plairait sur les dernières lignes d'un chapitre dont, par un acte délibéré, elle avait elle-même fixé le terme. Toutes les hésitations qu'elle aurait pu avoir quant au caractère définitif de cette décision tombèrent devant le besoin pressant de la faire connaître à Deering. Et lorsque celui-ci interrompit le récit de ses souvenirs, pour dire en soupirant, mais il vous est aussi arrivé bien des choses. Elle songea moins à sa nouvelle fortune qu'au protecteur auquel elle était sur le point de confier sa destinée. Oui, bien des choses depuis 3 ans, répondit-elle. Deering était assis, penché en avant, les yeux doucement fixés sur les siens. Et à côté de cet homme fin et pâle, elle imaginait la silhouette massive de M. Jackson Ben, la carrure de ses épaules, exagérée encore par la coupe de son veston noir, son grand col éblouissant, soutenant ses joues poupines et son menton bleu. Puis, la vision disparut au premier mot de Deering. 3 ans, reprit-il, semblant rêver. Je me suis si souvent demandé ce que ces 3 ans vous apportaient. Elle releva la tête, prise d'une rougeur subite et d'inquiétude de le voir se départir de son tact habituel et glisser aux personnalités. « Vous vous l'êtes demandé, dit-elle, vite ressaisie et avec un sourire. En pouvez-vous douter ? » Son regard resta posé sur elle. Oui, voilà sans doute ce que vous avez pensé de moi. Elle eut envie de lui répondre. Ma foi, je n'ai pas du tout pensé à vous. Mais la peur de déshonorer ses chers souvenirs la retint. S'il était de bon goût pour Dirigne d'ignorer, il ne saurait être de bon goût pour elle de renier. Voilà donc l'opinion que vous aviez de moi? Elle entendit qu'il répétait ces mots avec une insistance attristée. Alors, relevant vivement la tête, elle prononça résolument. Que pouvais-je penser? Je n'ai pas reçu un mot de vous. Si elle avait attendu et peut-être espéré l'embarrasser avec cette réponse, le regard tranquille dont il l'accueillit prouva qu'elle avait mal calculé. C'est vrai, vous n'avez pas eu un mot de moi. J'ai observé mon vœu. Votre vœu? Que vous ne recevriez pas un mot, pas une syllabe. Oh, je l'ai observé rigoureusement. Le cœur de Lizzie se mit à battre, avec un bruit qui résonnait à ses oreilles, couvrant de son vacarme la petite voix grêle de la raison qu'elle tâchait vainement de discerner. Qu'est-ce que c'est que ce vœu? Pourquoi ne devais-je pas recevoir un mot de vous? Il était assis, sans un geste, la tenant sous son regard, un regard si doux qu'il semblait presque pardonner. Puis, brusquement, il se leva et vint s'asseoir tout auprès d'elle, comme si rien entre eux n'avait été changé. Et Lizzie, instinctivement, se retira un peu. Mais il ne parut pas remarquer ce geste, et la quitta enfin des yeux pour jeter lentement un regard circulaire sur le petit salon. C'est charmant ici. Oui, les choses ont changé pour vous, dit-il. L'instant d'avant, elle souhaitait qu'il évitât la faute d'un retour vain sur le passé. C'était comme si toute sa tendresse d'autrefois eût redouté de le voir tellement à son désavantage et se fût dressé pour le défendre contre ce péril. Mais sa façon d'éluder l'exaspérait, et soudain, elle eut la tentation irraisonnée de l'attaquer face à face avec ses propres armes. Toutefois, avant qu'elle ait pu répéter sa question, il en posa une autre. « Alors vraiment, vous avez pensé à moi? Pourquoi avez-vous peur de l'avouer ?» L'imprévu de ce défi lui arracha un cri d'indignation. Est-ce que mes lettres n'étaient pas assez claires? Ah, vos lettres! Lizzie le regardait dans les yeux, fixement, courroucée. Mais Deering ne montrait pas le moindre embarras. Il semblait impassible. Seulement, son regard exprima un peu plus de tristesse. Elles m'ont suivi partout, vos lettres. Je ne m'en suis jamais séparée, dit-il. Cependant, vous n'y avez jamais répondu. À la fin, le reproche trembla sur ses lèvres. Cependant, je n'y ai jamais répondu. Les avez-vous seulement lus? Elle voulait lui infliger l'angoisse qui la torturait, comme si elle avait pu s'en délivrer en la lui imposant. Deering parut à peine entendre sa question. Il changea simplement un peu d'attitude, s'inclina de façon à se rapprocher légèrement, mais sans chercher à rappeler par le moindre geste les privilèges qu'une telle intimité impliquait autrefois. Il y avait dans vos lettres des choses magnifiques, admirables, dit-il avec un sourire. Elle se raidit sous ce sourire. Vous avez attendu 3 ans pour me le dire. Il la regarda gravement, avec surprise. Et vous m'en voulez de vous le dire, même aujourd'hui. Ses parades étaient véritablement incroyables. Elle en demeurait interdite, avec l'impression qu'elle frappait dans le vide et avec un désir désespéré, presque haineux, de l'acculer au mur et de l'y clouer. Non, seulement je m'étonne que vous preniez la peine de le dire. Quand, sur le moment, Brusquement, il ne se déroba plus et lui fit la surprise d'accepter la lutte sur son propre terrain. Quand, sur le moment, je ne l'ai pas fait? Mais comment l'aurais-je pu sur le moment? Pourquoi ne le pouviez-vous pas? Vous ne me l'avez pas encore expliqué. Il jeta de nouveau sur elle un regard de résignation désarmante. Était-ce nécessaire? Ma triste histoire ne vous a-t-elle pas tout expliqué? Expliquer pourquoi vous n'avez jamais répondu à mes lettres? Oui, dès l'instant que je ne pouvais y répondre que d'une seule manière, en protestant que je vous aimais et que je brûlais de vous revoir. Il y eut un long silence, lui résigné dans l'attente, elle occupée à rajuster follement les morceaux de son passé détruit. Alors vous prétendez que si vous n'avez pas écrit, c'est que j'ai découvert en débarquant en Amérique que j'étais pauvre, que la fortune de ma femme avait fondu, que tout ce que je pouvais gagner suffirait à peine. Je suis si mal douée à cet égard pour nourrir et habiller ma fille. C'était comme si une porte de fer eût été subitement fermée entre nous. Lizzie, toute haletante, se sentit forcée dans ses derniers retranchements. Au moins, vous auriez pu me dire, m'expliquer. Croyez-vous que je n'aurais pas compris? Il n'hésita pas. Vous auriez compris, mais il y avait autre chose. Quoi donc, dit-elle, les lèvres tremblantes. C'est extraordinaire que vous ne saisissiez pas, c'est bien simple. Je ne pouvais pas vous écrire cela, tout, mais pas cela. Et alors vous avez préféré me laisser souffrir. Il y eut un accent de reproche dans les yeux de Deering. Je souffrais moi aussi. C'était le premier appel direct qu'il adressa à sa compassion. Et Lizzie, pendant un instant, sentit que le frêle équilibre de ses sympathies vacillait et qu'elle allait tourner à l'ironie méprisante. Mais l'impulsion déjà donnée fut réprimée par une autre sensation. Une fois de plus, elle prit conscience d'un fait avec lequel, Deering absent, elle avait toujours négligé de compter. Le fait de la différence profonde, irréductible, entre l'image qu'elle se faisait de lui et la réalité qu'elle percevait de la mystérieuse transformation produite dans son jugement par l'inflexion de sa voix, le regard de ses yeux, l'action complexe et absorbante de sa personnalité. Elle avait une phrase qui exprimait bien cette manière d'être. Quand elle se reprochait autrefois de ne pouvoir se souvenir de lui, tant la vue de sa personne surpassait le portrait autour duquel sa fantaisie tissait tant de merveilles. Si brillant et si vivant que fût le portrait, il devenait une grise abstraction lorsque Deering lui-même se montrait. Et dans l'occurrence, l'effet fut immédiat. Lizzie ressentit le malheur possible de Deering avec une intensité auprès de laquelle sa propre douleur pâlissait. J'ai souffert horriblement, répéta-t-il. Et d'autant plus que je ne pouvais faire un signe, que je ne pouvais crier ma misère. Il n'y avait pas d'autre issue pour moi. Me taire et souhaiter que vous puissiez me haïr. Le sang afflua au visage de Lizzie. Vous haïr? Vous avez souhaité que je puisse vous haïr? Il quitta son siège et, s'approchant tout à fait, lui prit doucement la main. Oui, parce que je voyais à vos lettres que sans cela, vous seriez encore plus malheureuse. La main de Lizzie s'était abandonnée à l'étreinte réchauffante de Deering, et la pauvre petite âme tumultueuse se trouva subitement baignée de douceur. Et je comptais bien tenir la parole que je m'étais donnée, poursuivit-il, en relâchant doucement son étreinte. Je comptais même la tenir encore après que le hasard des événements m'eût refoulé sur votre route. Mais lorsque je vous ai vu l'autre jour, je me suis rendu compte que ce qui avait été possible loin de vous devenait impossible auprès de vous. Comment aurais-je pu vous voir et supporter d'être haï par vous? Il s'était écarté sans se rasseoir. Il se tint debout à quelque distance, la main sur le dossier d'une chaise, dans l'attitude de quelqu'un qui s'apprête à se retirer. Le cœur de Lizzie se serra. Ainsi, il s'en allait, et c'était là son adieu. Il s'en allait, et elle ne trouva pour le retenir qu'à bégayer étourdiment. « Je n'ai jamais eu de haine contre vous. » Il la considéra et sourit faiblement. « Il n'est pas nécessaire en tout cas que vous me haïssiez à présent. Le temps et les circonstances m'ont rendu si peu redoutable. Voilà précisément pourquoi j'ai osé revenir. Et je voulais vous dire combien je me réjouis de ce qui vous est arrivé d'heureux. C'est le seul obstacle que je ne puisse me résoudre à souhaiter de voir disparaître entre nous. » Lizzie se taisait, tandis qu'elle écoutait, brusquement surgit, le spectre de M. Jackson Benn. Il était là de nouveau, entre elle et Deering, droit et courroucé, mais moins réel et plus flou que tout à l'heure. Avec un regard dans ses petits yeux durs, qui implorait désespérément une réincarnation. Deering poursuivait ses phrases d'adieu. « Vous êtes riche maintenant, vous êtes libre, vous vous marierez. » Dans le vague, elle perçut qu'il lui tendait la main. « Il n'est pas vrai que je sois fiancée, » s'écriait-elle. C'étaient bien les derniers mots qu'elle eût voulu prononcer, et c'est à peine si elle s'était rendue compte qu'elle les prononçait. Mais elle sentit toute sa volonté soudainement concentrée dans l'impulsion irrésistible de répudier et rejeter à tout jamais les droits réclamés par le fantôme de Jackson Benn. Chapitre 7. Andorra Missy avait la ferme conviction que tout dans la charmante petite maison des Deering à Neuilly devait servir de jouet à leur fils. La maison était pleine de jolies choses, fort impropres à cette fin, mais les caprices de l'enfant étaient sacrés pour Miss Missy, et Lizzie avait facilement le dessous quand il s'agissait de défendre ses biens contre de tels alliés. Même elle était parfois tentée d'adopter la classification de son amie, qui divisait les objets d'art en deux catégories. Ceux que l'on pouvait sucer et les autres. Le plus souvent, elle se contentait de substituer à l'objet convoité par son fils un autre moins précieux et moins fragile. Ce fut le cas un beau matin de printemps qui se trouvait précisément être le second anniversaire du petit. « Tiens, chérie, » fit-elle ses lèvres appuyées contre les boucles blondes de l'enfant, tandis qu'elle dégageait de ses menottes une gracieuse figurine de Chelsea. « N'as-tu pas envie d'avoir cette jolie chose là-bas qui brille ?» Et elle attira l'attention de son fils sur un sachet brodé qu'Andorra tenait à la main. Les deux amis se trouvaient dans le boudoir de Lizzie. Dans la coquette villa de Neuilly, où les Deering s'étaient installés après leur mariage, Lizzie avait fait le choix de cette pièce parce qu'elle était au-dessous de l'atelier et qu'elle y entendait le pas de son mari, marchant de long en large devant son chevalet. Ça avait été une joie pour Lizzie de faire construire cet atelier pour Deering. Mais le pas qu'elle aimait s'était fait entendre moins régulièrement qu'elle n'eût pu l'espérer. Depuis 3 ans, en effet, qu'ils vivaient heureux ensemble, ils n'avaient pas encore repris le travail auquel ce bonheur inespéré aurait dû l'encourager. Mais, même quand elle ne l'entendait pas, elle le savait là, au-dessus de sa tête, étendue sur le vieux divan de Saint-Cloud, et fumant d'innombrables cigarettes, tandis qu'il parcourait les journaux. Et le fait de le savoir là lui causait toujours la même joie qu'au premier jour. Lizzie, ce matin-là, avait mieux à faire que de feuilleter les journaux. Elle avait conservé ses habitudes d'ordre et d'activité et n'avait pu encore se faire au laisser-aller souriant de son mari. Elle avait d'abord attribué l'insouciance de Deering au désordre permanent de son premier ménage. Puis elle avait compris que, tout en jouissant de sa bienfaisante direction, qui lui laissait tout le loisir voulu, il n'aurait jamais la volonté de reprendre son travail. Il aimait que les alouettes lui tombassent toutes rôties dans la bouche. Mais les satisfactions que lui procurait le génie domestique de sa femme ne diminuaient en rien son inconscience. Cette légèreté entraînait même parfois des conséquences imprévues. Ce jour-là, les deux femmes étaient occupées à vider trois vieilles malles de Deering qu'il n'avait jamais voulu déballer et que sa femme avait fait porter chez elle en désespoir de cause. Ses colis, fatigués, étaient arrivés quelques mois auparavant des États-Unis, où ils étaient restés en gage dans une pension de New York. Lizzie, ayant appris par une lettre de la propriétaire que le compte de son mari était en souffrance, s'était empressée de le régler. La jeune femme avait trop l'habitude des difficultés d'argent pour voir une humiliation dans le fait que son mari eût contracté des dettes. Mais il répugnait à son sens de l'ordre qu'il n'eût pas songé à les éteindre depuis son mariage. Deering accepta les remontrances de sa femme avec sa bonne grâce habituelle et lui laissa le soin d'envoyer le mandat libérateur, bien que, par un sentiment délicat, elle lui eût ouvert dans une banque un compte qui assurait son indépendance. C'était de bon cœur que Lizzie avait réglé cet arriéré. Elle savait que si son mari lui en avait délégué le soin, c'était par paresse et non pour tirer parti de sa générosité. Deering n'était nullement grisé par sa nouvelle situation de fortune. Il n'en était devenu ni avare ni prodigue. Il était simplement trop paresseux pour envoyer le chèque, comme il avait été trop paresseux pour se rappeler la dette que ce chèque eût éteint. « Non, mon chéri, non !» s'écriait Lizzie en élevant hors de portée le bibelot de Chelsea. « Voyez donc, Andorra, si vous ne pouvez pas lui trouver quelque chose dans ce fouillis. Où est le sachet que vous aviez à la main tout à l'heure? Je crois qu'il pourrait le mettre dans sa bouche sans inconvénient. » Miss Macy, le sachet à la main, se releva en trébuchant sur le morceau de vêtements et de défroque d'atelier qui encombrait la pièce. Elle s'arrêta, en admiration, devant le groupe formé par la mère et l'enfant. « Voyez donc, il cherche à l'attraper, le brigand. Ne dirait-on pas un petit Napoléon ?» Lizzie éclata de rire en soulevant son fils dans les bras. « Agitez-le devant lui, Andorra. Si vous le lui donnez trop vite, il n'en aura plus envie. Il est comme tous les hommes. » Andorra abaissa lentement le sachet de perles brillantes jusqu'à ce que l'héritier de Deering l'eût étreint de son jeune poing triomphant. « Enfin, voilà mon Chelsea sauvé, » fit Lizzie en souriant. Elle posa l'enfant par terre et le regarda s'éloigner en chancelant avec son butin. Andorra se tenait auprès d'elle, couvant l'enfant des yeux. « Savez-vous d'où il vient, ce beau sachet ?» demanda-t-elle brusquement. Lizzie, penchée sur une pile de chemises effrangées, secoua distraitement la tête. « Je n'ai jamais vu de linge plus mal blanchi, » soupira-t-elle. « Il n'y a pas une seule de ces chemises bonnes à raccommoder. « Le sachet, dites-vous, ma chère ? Mais non, je n'ai pas la moindre idée d'où il vient. » Andorra jeta sur elle un regard lourd d'intention. « Ne vous sentez-vous pas tout à fait malheureuse à l'idée qu'une femme a pu lui broder cela ?» Lizzie, toujours absorbée par l'examen des chemises, éclata de rire. « Mais voyons, Andorra, voyons. 6, 7, 9, non, Il n'y en a pas même une douzaine. Il n'y en a pas une seule en état. Non, je ne comprends pas comment les hommes peuvent vivre seuls. Andorra poursuivait son idée sur un ton rêveur. Écoutez, Lizzie, vous n'avez pas la prétention de me faire croire que cela ne vous fait rien de manier ces choses que d'autres femmes ont pu lui donner. Lizzie secoua de nouveau la tête et, se redressant avec un sourire, lança un lot de chaussettes dans la direction de son amie. Non, vraiment, cela ne fait rien, absolument rien. Tenez, soyez gentille, Andorra, et comptez-moi ces chaussettes. Mais comment, vous ne sentez donc rien? Gémit Andorra en attrapant dans ses bras maigres le paquet lancé par Lizzie. Celle-ci, en continuant tranquillement à déplier et inspecter le linge, sentait au contraire beaucoup de choses. Mais ses sentiments étaient trop profonds et trop délicats pour pouvoir être exprimés. Elle ne savait qu'une chose, c'est que chacun des objets qu'elle sortait des malles lui donnait la sensation d'un contact de dirigne. De tout ce qui appartenait à son mari semblait émaner quelque chose de lui-même, atome subtil que seule la chaleur de son amour à elle rendait perceptible, de même que certains éléments ne se révèlent qu'à une température excessive. Et dans l'espèce, il émanait des effets qu'elle avait dans les mains, témoin des mauvais jours de Dirigne, quelque chose de poignant par le contraste qu'il présentait avec sa situation présente de mari adoré. Maintenant, ses séries de chemises étaient rangées, soignées comme de la vieille dentelle. Quant aux chaussettes, Lizzie connaissait le dessin de chaque paire et eût voulu voir que la blanchisseuse se permit d'en égarer une seule ou d'en faire passer la couleur. Lizzie voyait dans cette sollicitude minutieuse et quelque peu terre à terre l'humble symbole de sa tendresse. Dering s'en trouvait comme enveloppée, à l'abri de toutes les vicissitudes, et elle mettait au défi les atteintes du sort d'arriver jusqu'à lui, tellement il paraissait invulnérable sous la protection d'un pareil amour. Mais elle ne pouvait guère formuler ses sentiments, encore moins en faire part à d'autres. Ils étaient, à proprement parler, partie intégrante d'elle-même, plus imperceptible aux yeux d'autrui que ne le sont l'été les abeilles bourdonnant dans le feuillage des tilleuls. Oh, je vous en prie, Lizzie, regardez-moi le petit coquin. Il a trouvé le moyen d'ouvrir le sachet. Lizzie s'arrêta pour sourire à son fils, qui trônait sur un tas de vieilles étoffes, tandis qu'Andorra, à genoux devant lui, l'adorait en silence. La jeune femme pensa vaguement « Pauvre Andorra !» Puis elle continua l'inspection d'un gilet dénué de boutons. Soudain, elle entendit son amie s'exclamer d'une voix émue. « Savez-vous, Lizzie, à quoi lui servait ce sachet? À garder vos lettres. » Lizzie leva vivement la tête. Lui, cette fois, c'était Dirigne. Et elle eut une sensation singulière et un peu pénible à voir que des lettres d'elle pussent se trouver au milieu de hardes abandonnées en gage par son mari dans une pension de New York. C'est drôle. Passez-les-moi, je vous en prie. Donne le sachet à tante Andorra, chérie. Regarde dedans et vois ce qu'un grand garçon comme toi peut y trouver. Tiens, voilà une lettre et une autre. « Mais comment ?» Lizzie se leva brusquement et s'approcha. « Qu'est-ce que c'est? Donnez-moi ces lettres, s'il vous plaît. » En prononçant ces mots, elle se souvint du jour où, chez Madame Clopin, elle avait reçu de la main d'Andorra la première lettre de Dirigne. Miss Messy leva sur elle un regard effaré. « Mais Lizzie, voyez donc, cette lettre n'a pas été ouverte. Pensez-vous que cette horrible femme ait pu l'intercepter? » Lizzie éclata de rire. Les imaginations d'Andorra étaient vraiment par trop puériles. Quelle horrible femme, voulez-vous dire, sa propriétaire? Ne soyez donc pas si naïve, Andorra. Comment aurait-elle pu l'intercepter puisque nous la trouvons dans ses effets? Mais Andorra tenait à son idée. Alors, pourquoi n'a-t-elle jamais été ouverte? Elle tendit la lettre à Lizzie, qui vit que l'écriture était bien la sienne. L'enveloppe portait le timbre de Passy, et elle n'avait pas été décachetée. La jeune femme l'examina et se sentit soudain défaillir. Comment? Toutes les autres sont de même. Elles n'ont jamais été ouvertes, s'écria Andorra en élevant de plus en plus la voix. Mais Lizzie lui saisit le poignet. Donnez-les-moi, je vous prie. Oh, Lizzie, Lizzie! Andorra, pâle de colère et de pitié, ne lâchait pas la liasse. Lizzie, ce sont les lettres que je mettais à la poste pour vous, les lettres auxquelles il ne répondait jamais, voyez donc. Donnez-les-moi, je vous prie. Et Lizzie s'en empara. Les deux femmes se regardèrent bien en face, Andorra toujours à genoux, Lizzie immobile devant elle, les lettres à la main. Le sang lui était monté au visage, bourdonnait dans ses oreilles, affluait à ses tempes. Elle se sentait faible et glacée. Il a dû y avoir quelque complot, quelque conspiration, s'écria Andorra, si agitée par sa découverte qu'elle parut complètement absorbée par le côté romanesque de l'affaire. Lentement, Lizzie détourna les yeux et les reporta sur l'enfant assis à ses pieds et suçant avec placidité les glands du sachet. Elle se pencha sur lui et le lui enleva, non sans lui avoir arraché un cri de rage. Elle le souleva alors dans ses bras, mais pour la première fois, elle ne sentit pas au contact du petit corps cette chaleur mystérieuse qui semble faire de la mère et de l'enfant un seul et même être. Il lui parut lourd et gênant, comme si c'était l'enfant d'une autre, et ses cris l'ennuyèrent. Je vous en prie, Andorra, emmenez-le. Oh, Lizzie, Lizzie, gémit son amie. Lizzie lui tendit l'enfant, et Andorra, se relevant, le prit dans ses bras. Je comprends tout ce que vous devez souffrir, soupira-t-elle par-dessus les boucles blondes du petit. Lizzie, à travers le désarroi de sa pensée, eut comme un rire intérieur. Andorra croyait toujours comprendre. Dites à Marthe de l'emmener avec elle lorsqu'elle ira chercher Juliette à l'école. Oui, ma chérie. Et la couvant des yeux, Andorra insista. N'essayez donc pas de vous contraindre devant moi. Le petit garçon hurlait toujours. Par-dessus l'épaule d'Andorra, il s'efforçait de ravoir le sachet. Oh, emportez-le, fit la mère, n'en pouvant plus. Andorra, de la porte, lui cria. Je reviens tout de suite. Souvenez-vous, ma chérie, que vous n'êtes pas seule. Allez donc avec Marthe. Je désire que vous alliez aussi, insista Lizzie, avec ce ton de voix qui laissait toujours Miss Messy sans réplique. Elle se retira donc avec l'enfant et Lizzie resta seule. Ses yeux égarés parcoururent le boudoir en désordre. Une heure plus tôt, la pièce, claire et riante, avait présenté l'image de sa vie heureuse et ordonnée. Maintenant, un fouillis d'objets fanés traînait épars sur les meubles et le tapis, et ses illusions et ses rêves gisaient dans le même désarroi. Oui, c'était sa vie même qui se trouvait là, à ses pieds, parmi cette défroque. Elle ramassa ses lettres, 10 en tout. Et examina toutes les enveloppes. Pas une n'avait été ouverte, pas une seule. En les regardant, chacun des mots qu'elle avait tracés lui revint à la mémoire, faisant courir par tout son corps un frisson. Avec une rapidité vertigineuse et une douloureuse minutie, toute cette période de sa vie se déroula devant elle. Elle sourit tristement à l'idée d'Andorra, que les lettres avaient pu être soustraites à son mari. Il n'était nul besoin d'une pareille supposition pour déchiffrer l'énigme. 3 années de vie commune avec Gering l'éclairaient suffisamment. Il lui était singulièrement amer de reconnaître qu'elle n'éprouvait aucun étonnement. Et cependant, un instant auparavant, elle s'était crue parfaitement heureuse. Elle se rendait si bien compte de ce qui avait dû se passer. En recevant les lettres, Dering, absorbé ailleurs, les avait mises de côté pour les lire plus tard, à un moment qui n'était jamais venu. Qui sait? Peut-être même sur le paquebot qui le portait là-bas, avait-il rencontré une autre femme, cette femme inconnue qui se dresse redoutable et fatale, au fond de tous les soupçons féminins. Lizzie savait aujourd'hui que les sensations les plus intenses ne laissaient aucune trace dans son esprit, qu'il ne revivait ni ses plaisirs ni ses peines. La meilleure preuve en était la légèreté de sa conduite vis-à-vis de sa fille. Il semblait avoir trouvé tout simple que Juliette restât indéfiniment avec les amis qu'il avait reçus après la mort de sa mère. Et c'était uniquement sur la proposition de Lizzie que la petite fille avait été ramenée auprès d'eux et que le ménage s'était établi à Neuilly pour être à la portée de la pension de l'enfant. Mais dès que Juliette fut revenue, Dering devint le plus tendre des pères et sembla jouir à tel point de la présence de son enfant que Lizzie s'étonna qu'il n'eût pas paru souffrir de son absence. La jeune femme avait remarqué tout cela quand il s'agissait de Juliette, mais avait trouvé tout simple que son propre cas fût différent et qu'elle fût l'exception que chaque femme se figure être pour l'homme qu'elle aime. Certes, elle savait maintenant qu'elle ne pouvait modifier les habitudes de son mari, mais elle s'imaginait qu'elle avait enrichi sa sensibilité et donné plus de profondeur à ses sentiments. Et elle s'apercevait tout d'un coup que les raisons données par Dering pour n'avoir pas répondu à ses lettres avaient précisément été le point de départ de toutes ses illusions. De fait, le temps avait simplement manqué à Dering pour lire ses lettres. Autrefois, cette découverte aurait été le coup le plus cruel pour Lizzie. Mais combien ce temps était loin! Aujourd'hui, elle eût pu pardonner à son mari de l'avoir oubliée. Mais jamais elle ne pourrait lui pardonner d'avoir menti. Elle s'assit et de nouveau regarda vaguement autour d'elle. Tout à coup, elle entendit au-dessus d'elle le pas de Dering et son cœur se serra. Elle craignait qu'il ne descendît la rejoindre. Vivement, elle verrouilla la porte. Puis, tremblante et lasse, elle s'effondra sur une chaise, comme si d'avoir poussé le verrou eût demandé un grand effort. Un instant plus tard, elle entendit Dering dans l'escalier et fut saisie d'un tremblement nerveux. « je te méprise !» s'écria-t-elle. Elle attendit avec appréhension qu'il mît la main sur le bouton de la porte. Il entrerait en fredonnant un air. Il lui ferait une question oiseuse et mettrait un baiser sur ses cheveux. Mais non, elle se souvint qu'elle avait fermé la porte et se sentit en sûreté. Elle continua à écouter et s'aperçut avec surprise que le pas de son mari s'éloignait. Il n'avait donc pas eu l'intention de venir chez elle. Il fallait qu'il fût descendu pour chercher quelque chose, un autre journal peut-être, car il ne semblait rien lire d'autre. Elle se demandait même parfois où il avait pris ce qui faisait jadis le fond de leur conversation littéraire. Au bruit que fit en se refermant la porte de la maison, elle se leva d'un bond. Il sortait donc. Ce n'était guère dans ses habitudes de quitter la maison dès le matin. Regardant par la fenêtre, elle le vit marcher vers la grille en suivant l'allée bordée de lilas. Quel motif avait donc pu le forcer à sortir à cette heure si peu habituelle? Elle fut surprise qu'il ne le lui eût pas dit, et ce seul fait rappela à Lizzie le degré de leur intimité. Elle était devenue pour lui une habitude, et Deering aimait ses habitudes. Mais à ce moment-là, elle eut l'impression que c'était un étranger qui quittait la maison, et elle se demanda ce qu'il ressentirait s'il pouvait deviner cette pensée. Il la saura tout à l'heure, se dit-elle avec une farouche exaltation, et dramatisant déjà la scène. Dès qu'il rentrerait, elle le ferait monter chez elle et lui tendrait les lettres sans rien dire. Un instant, elle s'attacha à cette vision, puis s'en détourna, car elle se sentait humiliée à la pensée d'humilier Deering. Elle tenait à conserver son image intacte. Non, mieux valait ne pas le revoir. Il lui avait menti au sujet des lettres. Il lui avait menti quand il voyait un intérêt à regagner ses faveurs. Oui, voilà ce qu'il fallait retenir. Il l'avait recherchée parce qu'il la savait riche. Il était même revenu d'Amérique tout exprès pour l'épouser. Oui, c'était cela, sans aucun doute. Comment ne l'avait-elle pas compris sur le moment? Elle se sentit écœurée de sa propre sottise et de la grossièreté des artifices de l'homme. Mais pourquoi était-il sorti à pareille heure? Et elle s'en voulait de se préoccuper encore des allées et venues de son mari. Se détournant de la fenêtre, elle revint s'asseoir, se demandant ce qu'elle allait faire. Non, elle ne lui montrerait pas les lettres. Elle les laisserait simplement sur sa table et s'en irait. Elle quitterait la maison avec son fils et Andorra. C'était déjà un soulagement que d'entrevoir un plan défini, un acte auquel pouvaient se raccrocher ses pensées en déroute. Elle s'en irait, bien entendu. Et en attendant, afin de ne pas le voir, elle feindrait une migraine et resterait dans sa chambre jusqu'après le déjeuner. Puis elle et Andorra rassembleraient quelques effets et s'enfuiraient avec l'enfant, tandis que Deering resterait à paraisser là-haut dans l'atelier. Lorsque la maison s'écroule, il faut bien la quitter. Rien de plus simple, rien de plus inévitable. Elle fut arrêtée par l'impossibilité de se figurer ce qui arriverait ensuite. Quelques efforts qu'elle fit, elle n'arrivait pas à s'imaginer, elle et l'enfant, loin de Deering. Faiblesse, sans doute, car n'avait-elle pas tous les atouts de son côté? Jeunesse, fortune, énergie. Il était bien plus difficile de s'imaginer ce que deviendrait Deering, incapable de rien en dehors d'elle. Combien ils avaient vécu heureux ensemble, si illogique et même immoral que cela lui parut, elle savait cependant quel bonheur il avait éprouvé par elle. Certes, ce n'est pas comme cela que cela se passe dans les romans. Lorsque le bonheur est fondé sur un mensonge, il s'écroule fatalement. D'après ce qui se passait dans tous les romans qu'elle avait lus, Deering, lui ayant menti une fois, aurait continué à le faire. Et pourtant, elle savait bien qu'il n'en avait rien été, car s'il l'avait épousée sans amour, à coup sûr, il l'aimait aujourd'hui. Elle chercha à s'imaginer ce que serait sa nouvelle vie. Ses amis ne l'abandonneraient certainement pas, mais elle n'éprouva aucun soulagement à cette pensée. Elle n'avait qu'un désir, demeurer ce qu'elle avait été avant que son enfant n'eût joué avec le sachet. Pourquoi le lui avait-elle donné? Elle était si heureuse. Et ne l'étaient-ils pas tous les trois? Tout en elle criait vers ce bonheur perdu, comme le petit avait crié quand on lui avait enlevé son jouet. Combien elle regrettait d'en savoir si long. Les parents laissent ignorer tant de choses aux enfants. Ils les protègent contre tous les sombres secrets du mal et de la douleur. Et de même, pour que leurs aînés puissent supporter la vie, ne valait-il pas mieux qu'ils ignorassent bien des choses? Mais après tout, Pourquoi quitterait-elle cette maison qui était la sienne? Ici, avec son fils et Andorra, elle pourrait encore se faire un semblant d'existence. Ce serait Dirin qui partirait. Il comprendrait son devoir dès qu'il aurait vu les lettres. En esprit, elle le vit s'en aller, sortir de la maison comme il l'avait quittée tout à l'heure. Elle vit la grille se refermer sur lui pour la dernière fois. Elle le voyait aussi clairement que s'il se fût trouvé dans la pièce. Il en coûterait à Dering d'en revenir aux privations et aux expédients d'autrefois. Et cependant, elle savait qu'il n'implorerait pas son pardon. Tout à coup, il lui vint une autre idée. Andorra n'aurait-elle pas couru lui annoncer la découverte des lettres avec une de ces phrases romanesques « Fuyez, vous êtes découvert » Et si vraiment Dering l'avait quittée pour toujours? Après tout, cela n'aurait rien d'étonnant de sa part. Sous son apparence de douceur, il demeurait toujours évasif et fermé. Il s'était peut-être dit qu'il irait au-devant de Lizzie et se placerait sur la défensive. Il se pouvait, en effet, qu'elle l'eût vu sortir de cette grille pour la dernière fois. Elle jeta de nouveau un regard autour d'elle, comme si cette pensée revêtait d'un nouvel aspect ce qui l'environnait. Oui, cette sortie de son mari ne s'expliquait qu'ainsi. Midi, l'heure de leur déjeuner avait déjà sonné, et Dirigne était d'une exactitude scrupuleuse. Seule une circonstance inattendue pouvait l'avoir décidé à quitter la maison à cette heure-là, et sans la prévenir. Après tout, il valait peut-être mieux qu'Andorra lui eût parlé. Lizzie se défiait de son propre courage. Elle espérait presque que son amie lui aurait épargné cette épreuve. Ce ne fut toutefois pas sans un certain dépit qu'elle envisagea cette possibilité. Pourquoi Andorra s'est-elle mêlée de cela? Elle éprouvait un vague ressentiment à la pensée que Dirigne avait peut-être été soustrait à sa vengeance. En ce moment-là, s'il s'était trouvé à la maison, elle serait aussitôt allée chez lui et lui aurait jeté son mépris au visage. Mais il était sorti. Elle ne savait où aller le chercher. Et, chose étrange, à la colère qu'elle ressentait contre lui, se mêlait un secret instinct de protection, de cette sollicitude particulière chez la femme habituée à veiller sur l'homme qu'elle aime. Qu'il lui paraîtrait étrange de ne jamais plus sentir cette sollicitude, de ne jamais plus l'entendre dire, la main posée sur ses cheveux. Comment, petite sotte, vous étiez vraiment inquiète? La pensée de ce contact devint tout à coup une sensation si réelle que Lizzie se raidit et rejeta la tête en arrière comme pour écarter la main de son mari. La seule pensée de ses caresses lui était devenue odieuse. Et cependant, elle en ressentait l'impression dans tout son corps. Elle la ressentait, mais avec horreur et répugnance. C'était comme une étreinte à laquelle elle cherchait à se soustraire et qu'elle resserrait en faisant des efforts pour s'en débarrasser. On eût dit que son esprit sondait son corps pour être sûr de sa soumission, épiant en lui le moindre mouvement de révolte. Pour échapper à cette obsession, elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Il n'y avait personne dans le jardin. Mais tout à coup, Lizzie vit la grille s'ouvrir, et son cœur tressaillit de joie ou de regret, elle ne sut dire lequel. Un instant plus tard, la porte livra passage à une voiture d'enfant poussée par la bonne, escortée de Juliette et d'Andorra. Les yeux de la jeune femme se posèrent comme si elle le voyait pour la première fois sur le groupe familier, et elle demeura immobile au lieu d'aller à la rencontre des enfants. Elle entendit sur l'escalier un bruit de pas, et Andorra frappa à la porte. Lizzie tourna la clé et ouvrit à son amie qui la pressa avec émotion sur sa maigre poitrine. Ma chérie, soupira Miss Massy, rappelez-vous que vous avez votre enfant et moi. Lizzie se dégagea doucement. Elle regarda Andorra avec une répulsion qu'elle ne pouvait s'expliquer. Avez-vous parlé à mon mari? Demanda-t-elle, en reculant avec froideur. Si je lui ai parlé? Non, répondit Andorra avec un regard étonné. Alors, vous ne l'avez pas rencontré depuis qu'il est sorti? Mais non, ma chérie, il est donc sorti? Je ne l'ai pas vu. Lizzie s'assit, avec un vague sentiment de soulagement. Son émotion lui remonta à la gorge et l'empêcha de parler. Tout à coup, une idée vint à Andorra. Je comprends, ma chérie. Vous ne vous sentez pas la force de lui parler vous-même? Vous voulez que j'y aille à votre place? Elle regarda vivement autour d'elle, flairant la lutte. Vous avez raison, chérie. Dès qu'il rentrera, j'irai le trouver. Le plus tôt sera le mieux. Elle suivit Lizzie, qui, machinalement, était revenue à la fenêtre et l'entoura de son bras. Soudain, la grille s'ouvrit de nouveau et Deering entra. Le voilà, s'écria Miss Massy, serrant le bras de Lizzie. Je vais descendre tout de suite. Vous me permettez de parler pour vous. Vous avez confiance en mon tact. Oh, croyez-moi, vous pouvez vous fier à moi. Je saurai ce qu'il faut lui dire. Ce qu'il faut lui dire, répéta distraitement Lizzie. Tandis que son mari remontait l'allée, elle eut la vision de leurs 3 années de mariage. Ces années étaient toute sa vie. Jusque-là, tout dans son existence avait été incolore et inconscient, telle la vie de la plante tant qu'elle n'a pas atteint la surface du sol. Ces 3 années ne lui avaient sans doute pas apporté la réalisation de ses rêves de jeune fille. Mais si certaines de ses illusions avaient été détruites, celles-ci se trouvaient être remplacées par des réalités autrement précieuses. Lizzie comprit maintenant qu'elle s'était peu à peu faite à la nouvelle image de son mari, tel qu'il était, tel qu'il serait toujours. S'il ne lui représentait pas le héros de ses rêves, c'était du moins l'homme qu'elle aimait et qu'il avait aimé. Et elle s'aperçut, dans un dernier éclair de pitié et d'intelligence, que de même qu'un marbre compact peut être fait de cailloux et de débris sans valeur, peut-être n'est-il pas impossible, avec de médiocres éléments, de façonner un amour capable de résister aux plus forts assauts de la vie. Elle sentit la pression de la main d'Andorra se faire plus lourde. Ayez courage, ma pauvre chérie. Je lui donnerai les lettres sans dire un mot. Vous pouvez vous en rapporter à mon sens de la dignité. Je sais tout ce que vous éprouvez en ce moment. Deering avait atteint le seuil de la maison. Lizzie le suivit des yeux, silencieusement, jusqu'à ce qu'il eût disparu sous l'auvent de la porte. Puis elle se retourna et jeta sur son amie un regard où il y avait de la pitié. Pauvre Andorra, dit-elle. Mais vous n'en savez rien. Non, absolument rien. Edith Wharton. Titre original, The Letters, 1910.